On va continuer à Arve Psachim. Pesachim, Kufiutet, Amud Aleph. On est arrivé jusqu'à Amar Rabbi Chama. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 lignes avant la fin. Je sais pas. Alors, 12 lignes avant la fin. Vous êtes, il y a deux points. Amar Rabbi Chama, Bachanina.
On est où? On fait quoi là? On est où?
Pesachim, Kufiutet, Amud Aleph.
Ça
12 lignes avant la fin. Amar Rabbi Chama Bar Chanina. Donc, qui c'est Rabbi Chama Bar Chanina? C'est le fameux Rav. Hervé, ferme ta boutique, s'il te plaît.
Pardon.
Alors, Rabbi Chama Bar Chanina, c'est celui qui était choisi par Rabbi pour être le Rosh Yeshiva après sa Petira. Amar Rabbi Chama Bar Rab Chanina. Rabbi Chanina, c'est le fameux Rabbi Chanina. Rabbi Chanina Bar Rabbi Shaya, les deux copains de Rabbi. Eux étaient les collecteurs de Braïtot. Donc, ce Rabbi Chanina avait un fils. Rabbi Chama ben Rabbi Chanina. On voit souvent dans la Gemara que les grands, les Atanaïm, Amoraïm, ils avaient des enfants aussi qui étaient grands. Beaucoup, beaucoup, beaucoup on trouve dans la Gemara. Amar Rabbi Chama ben Chanina. Shalosh matmoniot hitmin Yosef Mitzrayim. Trois trésors Yosef à conserver, à cacher en Égypte. C'est-à-dire l'argent que les gens sont venus pour acheter le blé. C'est ça que tout cet argent que Joseph il a collecté a provoqué que l'Égypte est devenue le plus grand empire. On voit encore aujourd'hui les
Comment ça
travaux qu'ils ont fait.
avec
Quoi?
tout ce qu'ils recherchent en Égypte, on n'a pas de traces de Joseph,
On n'a pas quoi?
de traces ou comment on l'appelait? On devait parler.
Vous savez, vous, docteur Shimoni, vous venez au 21e siècle, mais vous n'êtes pas au courant qu'il y a 12e, 14e, 16e, 18e, 19e, 20e, il y avait des pilleurs en Égypte, ils ont pillé des milliards, des tonnes d'or. Tous ces tombes des rois et d'autres choses étaient bourrées d'or.
Oui, mais lui, on ne parle pas là, on parlait de lui. Est-ce qu'on n'entendait pas? On n'entend pas. Et
Qui c'est
Ramsès
lui? De qui vous parlez?
de Yosef.
Qu'est-ce que vous dites?
Il n'a pas laissé une trace, un truc. On n'a pas. Comment on l'appelait à l'époque en Égypte? Comment on l'appelait?
Tsafnat
Sofnat Paner.
Paneah. On n'a pas des signes, on n'a pas des souvenirs de Yosef. Vous parlez chez les Juifs ou chez les Goyim?
C'est les goyim.
Ah, c'est les goyim, parce que les goyim, ça compte maintenant. Ah oui, parce que les goyim, les historiens goyim sont maintenant des...
Non, mais
C'est aussi un
ça compte pas.
mandamar. Les juifs, ils connaissent l'histoire. Vous savez qu'il y avait en Égypte un grand antisémite qui s'appelait Apion. Ce type, il a vécu il y a 2000 ans en arrière. Ce personnage, il se moquait. Il a dit, nous n'avons pas de traces de Yosef en Égypte. Alors, cette histoire que les Juifs racontent, c'est inventé. En plus, ce Apion, il avait d'autres choses, il a écrit, archi antisémite, entre autres, un classique du classique. Il a dit qu'à Yerushalayim, c'était encore à l'époque du Beit HaMikdash. C'était avant la fin de Chorban, avant la Chorban de Beit Hamikdash, il a vécu chez Apion. Et il a écrit qu'au Kodesh Kodeshim, les Juifs ne laisseront entrer personne. Pourquoi ils laisseront entrer personne? Ce monsieur Apion, il a dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que les Juifs, ils gavent certaines personnes, des Romains, et quand ils sont bien gros, doux et dodus, et bien gras, dos et dodus, ils le prennent, ils lui font la shrita, ils mangent, ils le mangent. Voilà, c'est ça qu'on fait à Kodesh Kodeshim. Alors, si pendant 2000 ans, on a des antisémites qui disaient que les Juifs utilisaient le sang des chrétiens pour faire des matzot, eh bien, l'origine de ce mensonge était déjà chez Apion. Alors, Flavius, il a écrit un livre qui s'appelle Contre Appion. Et il refute tout ce qu'il dit. Bon, les grossièretés de l'antisémitisme, ça, pas difficile à refuter. Mais au sujet de sa question, comment ça se fait qu'on ne trouve pas dans la littérature égyptienne Yosef, l'œuvre de Yosef? Alors lui, ce Flavius, était un homme très instruit. Et il connaissait bien les anciens écrits des Égyptiens. Et il prouve d'une façon géniale comment les historiens égyptiens, ils ont écarté ce qui leur déplaisait. Comme dans tous les pays du monde, il ne faut pas se faire des illusions. Les historiens qui sont à la solde des empereurs, ils étaient toujours les déformateurs de l'histoire. Ils le prouvent à l'intérieur des écrits, comment ils ont manipulé, comment ils ont falsifié afin d'écarter l'épisode de Yosef. Mais avec tout ce qu'ils essayaient de falsifier, ils le prouvent par les différents écrits. Et avec tout ce qu'ils ont essayé, Flavius, il dit, en vérité, Yosef se trouve chez eux. Et le peuple juif se trouve dans leurs écrits. Et la sortie d'Égypte aussi, mais d'une façon trafiquée. Ils disent qu'il y avait un monsieur, il y avait un peuple, et ce peuple était plein de lèpre, et l'Égypte ne pouvait plus supporter ce peuple, et ils avaient à leur tête, je ne me rappelle pas le nom qu'ils donnent à Moshe Rabbeinu, ils avaient à leur tête un chef qui a dit à son peuple, « Bon, on va partir, on ne nous aime pas parce que nous mangeons du chazir qui nous a apporté la lèpre, on ne veut pas infecter tout ce pays d'Égypte, donc nous allons quitter. » Et ils sont partis dans le désert. Après, raconte, ils sont partis dans un autre pays. En vérité, l'histoire d'Yetziat Mitzrayim est marquée chez eux. Mais à la manière de tous les falsificateurs de l'histoire, de tous les trafiquants qui ne veulent pas raconter l'histoire telle qu'elle. Maintenant, à quel moment l'histoire de la sortie d'Égypte était falsifiée? Est-ce que 500 ans après, ou 1000 ans après, ou peut-être ça a été déjà... À leur époque, déjà les Égyptiens à leur époque, tout de suite après, ils ont déjà falsifié. Aujourd'hui aussi, il existe. Aujourd'hui même que le monde, c'est plus difficile à falsifier aujourd'hui l'histoire. Mais aujourd'hui aussi, on falsifie. Sans être un adepte de la théorie de la conspiration, et on n'a pas besoin d'être, qu'il y a des mensonges. Qu'il y a des mensonges, vadaï, il y a des mensonges dans l'histoire. En tout cas, après coup, on ment. Et pourquoi on ment? Parce qu'on a un intérêt. Et pourquoi on a un intérêt? Parce que les pays, les présidents, les rois, ils n'aiment pas de raconter leur déconfiture. Eh bien, l'Égypte était détruite après la sortie des Juifs. Et les gens qui venaient après lui, il existait un paro après lui. Le pays d'Égypte continue à exister dans tout le Tanakh. À l'époque, tous les Tanakh, l'Égypte était toujours à côté d'Eretz Israël, que ce soit David et Melech, avant David et Melech, après David et Melech, pendant toute l'époque du Tanakh, le pays d'Égypte était un pays qui existait, qui était en contact avec les Juifs. Shlomo Melech, il s'est marié avec la fille de Paro. Alors, ces Paro, ils connaissaient toute l'histoire.
Il n'y a pas eu de guerre contre eux.
Quoi?
Il y a eu des guerres contre eux?
Il y avait des guerres aussi. Il y avait, quand le roi de Kouch est venu, avec, à l'époque de Assa, Shishak Melech Mitzrayim, on a fait hier, tu étais Hervé, Shishak Melech Mitzrayim, il a pillé tout l'argent de Rehovam, on a fait ça hier. Et plein de fois dans le Tanakh, on nous parle de Paro, etc. etc.
Comment vous l'avez appelé?
Hein?
Comment vous l'avez appelé tout à l'heure, Yosef? Le nom?
Le nom, il s'appelait dans le Chumash, il est marqué que Paro lui a donné le nom Tsofnat Paneach.
Ah, dans le Chumash.
Dans le Chumash, Tsofnat Paneach. Mais chez eux, tout était trafiqué après l'histoire. Mais il paraît qu'en Hollande, j'ai vu une fois une photocopie. À Hollande, il y a une ville qui s'appelle Leiden. Et dans cette ville, il y a un musée. Un musée historique des anciens trucs. Et là-bas, il y a un papyrus. Ça s'appelle le papyrus de Opiver ou quelque chose comme ça. appauvrir ou quelque chose comme ça. Et là-bas, c'est par écrit par hiéroglyphes, ça s'appelle, où il raconte la sortie d'Égypte. Les ennemis du peuple, ils vont y sentir. Il raconte avant le fleuve, il est plein de sang, il y a des grenouilles partout, des bêtes sauvages, la grêle. Il raconte le pays en train de s'effondrer, etc. Il raconte. Après, il dit que le peuple, nos ennemis, sont sortis, il y a une colonne de feu devant eux, et notre pays, il est détruit, etc., en ruine. Il raconte ça dans les hiéroglyphes. Mais une fois, j'étais à Genève, il y a plus que 30 ans, j'étais dans le musée d'histoire. Dans le musée d'histoire de Genève. Alors, j'ai visité. Alors, il y avait un immense mur, je ne sais pas combien, 5 ou 10 mètres de longueur, je ne me rappelle plus. Et chaque siècle de 5000 ans était comme ça coupé et les événements importants de ce qui s'est passé étaient marqués. Alors, il y avait la guerre de Troie dans l'année, je ne sais pas combien, 2000 ans avant Yoshke. Bon, les premiers 1000, 2003, il y avait peu des informations. Plus que c'est devenu le monde moderne, alors plus il y avait des informations sur le mur, étaient écrites les grandes dates, les grands événements. Et au milieu de ce mur, je vois un point d'interrogation. Et je regarde de plus près, c'est quoi ce point d'interrogation? En est-elle et elle, je ne sais pas, en 1300 avant Yoshkel, ou je ne me rappelle pas la date, sortie des Hébreux d'Égypte, point d'interrogation. Vous vous rendez compte? Il y avait la guerre de Troie, il n'y avait pas de point d'interrogation. Alors, la guerre de Troie, combien de témoins il y avait? Il y avait un Grec qui s'appelait Homère. Il a écrit des légendes ou des choses historiques, va savoir. Et c'est Homère, il a écrit un ou deux ou trois éditions. Il était perdu, après un autre qui est venu, qui l'a copié, deux, trois. Et après, doucement, doucement, c'est rentré dans la légende des Grecs. On raconte l'histoire de la guerre de Troie. Tu ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Il y avait deux, trois documents un peu contradictoires dans différentes langues, les Grecs, anciens. Bon. Et de ça, c'est devenu, sur le mur de l'histoire mondiale à Genève, c'est devenu une date fixe. Et quand on parle de la sortie des Hébreux d'Égypte, où nous avons des millions de gens qui pendant 3000 ans racontent mot par mot la même histoire et qu'ils ont des livres, des millions de livres à travers l'histoire où tout est rédigé, un peuple qui raconte chaque jour cet événement de la sortie d'Égypte et qui fête 3 fois par année et qui monte à Jérusalem faire un corban. Et que les Juifs, ils rentrent dans la fournaise, ils témoignent tous les jours, Tfilin, Tzitzit, Shabbat. Tous ces témoins, ça donne le droit à un point d'interrogation. Peut-être il y avait cette sortie, on ne sait pas. Et les autres choses, tout ce qui est autre chose, même de cette époque, il n'y a même pas un millième de... Il n'y a même pas un millième, beaucoup moins qu'un millième de confiance abrétée à ce que les autres y racontent. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on croit de l'histoire, pas l'histoire, quand on ne veut pas croire quelque chose, même que les preuves sont évidentes, eh bien, on ne veut pas croire. Tu crois, tu ne crois pas, tu ne veux pas croire, ils ne veulent pas croire. Parce que la sortie d'Égypte engage le monde. Si la sortie d'Égypte est vraie, et si les Juifs, ils étaient en vérité en Eretz Israël, à Canaan, d'après désert, ils ont reçu la Torah, ça oblige le monde entier. Eh ben, Norbert, vous êtes dans la voiture? Vous êtes en train de rouler? Vous ne pouvez pas parler. Bon, mais vous êtes dans la maison ou vous êtes en train de rouler en voiture? Ah, il faut faire attention, Norbert. Alors, vous êtes en train de rouler, faites
Il est en
attention.
voiture. Il est en voiture.
Et comment il me voit? Il faut pas qu'il me voie, il faut qu'il regarde la route, hein?
Ben oui, mais il est en voiture. J'ai vu la ceinture de sécurité.
Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas, il faut se concentrer sur votre voyage, docteur. Je ne sais pas si c'est bien que vous écoutez le cours. Bon, faites comme vous comprenez, vous êtes un majeur adulte. Bonne route. Alors.
Non, mais peut-être qu'il vous a, il a, peut-être qu'il regarde pas. Il fait que écouter.
Oui, sûrement, oui. Mais moi, je le vois.
Conclusion, il habounèche.
À parler en yiddish, s'il vous plaît.
C'est une expression qu'ils disent les juifs quand ils nous aiment. Ça veut dire qu'ils nous aiment pas.
C'est pas seulement la question s'ils nous aiment pas ou ils nous aiment, oui. La question, elle est s'ils aiment Dieu ou ils aiment pas Dieu. Voilà la question qu'il faut se poser. C'est qu'ils ne veulent pas que Dieu leur donne des instructions. Voilà le grand problème. Ils ne veulent pas que Dieu se mêle de leur vie.
Ils aiment Dieu.
Hein?
Pour certains, ils aiment Dieu. Pour beaucoup, ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas le fait de savoir que Dieu, il nous a choisis à nous.
Oui, ça c'est un problème, mais globalement, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les mitzvot que Dieu il donne. C'est pour ça le rabbin, le grand rabbin de Troyes, vous avez entendu parler du grand rabbin de Troyes, il écrit dans Parshat Beshalach que, comme ça marqué, tes ennemis, comme il est marqué là-bas dans le passage, Taharos Kamecha. Taharos, tu détruis Kamecha, ceux qui s'élèvent contre toi. Qui s'élève contre Dieu? Ceux qui s'élèvent contre les Juifs. Car tous ceux qui s'élèvent contre les Juifs, ils s'élèvent contre Dieu. Pourquoi c'est si évident que les deux choses sont liées? C'est parce que les Juifs sont les témoins de Dieu. Les Juifs, ils ont rencontré Dieu à Sinaï. Ils ont rencontré Dieu en Égypte et à la sortie d'Égypte. Et ils témoignent qu'il y a Dieu. Et c'est ce témoignage qui les gêne. Parce que s'il y a un Dieu, ils sont obligés d'arrêter de voler, de faire toutes les immoralités. Et les Juifs sont les témoins. Et ce s'appelle les témoins qui dérangent. C'est comme Rouven, il a assassiné Shimon. Et il y a Lévi Yehuda qui était témoin. Alors Rouven, il a peur de Lévi Yehuda. Il a peur que les témoins vont aller au tribunal et vont l'accuser. Ça va lui coûter cher. Donc Rouven, il est intéressé de faire taire Lévi et Yehuda. Et les Juifs sont les témoins qu'il y a Dieu. Donc, comme on est des témoins dérangés, qui dérangent, donc on ne nous aime pas. Donc, on essaye de falsifier l'histoire. Donc, l'histoire égyptienne a été falsifiée par les successeurs de Paro, ou déjà à son époque, ou après, afin de faire disparaître la honte que l'Égypte a subie. Parce que c'est une immense honte qu'ils étaient têtus comme des moules. Ils ont fait que Paro, il a fait une politique, lui et son gouvernement, tous ses avadim, ils ont fait une politique qui a amené l'Empire à sa chute, à la destruction. Donc, on va essayer d'effacer ça. Ça, c'est une chose personnelle. À part ça, on ne voulait pas reconnaître dans le peuple juif après, le peuple élu et le peuple qui a reçu la Torah et les mitzvot, et qui est allé doucement, doucement de civiliser tous les Proches-Orients. Alors, les Juifs, ils ont doucement civilisé tous les Proches-Orients, mais toujours avec une opposition des autres. Alors, ça, c'est tout ça. Il écrit, comme il s'appelle, Flavius. C'est un livre très, très important. Il s'appelle Contrapion. Et ce livre existe depuis 2000 ans. Il a été traduit dans toutes les langues du monde. Et vous allez ouvrir Internet. Et vous tapez Contrapion, même sur Internet, vous pouvez lire ce livre. Lui, il a écrit en quelle langue, Contrapion? Je sais pas, en latin, en grec, en roumain. Lui, c'est un grand connaisseur des littératures goy aussi. Et il existe en hébreu aussi, il existe toutes les langues. Vous allez ouvrir Contrapion, c'est un livre très important. Très, très important. Et il y a des goyim qui posent des questions sur ce livre. Et il croit à trouver des choses bizarres, mais toutes les questions que les goyim demandent, ça vient de Amaratsout. Ça vient de pur Amaratsout, parce qu'ils attaquent Flavius, ils veulent démonter Flavius aussi. Alors, Flavius lui-même, il se contredit. Il dit qu'il est Kohen. Il vient de la famille de Hashmonaïm. Après, quand il était à Rome, il s'est marié avec une femme prisonnière, une femme juive qui était prisonnière chez les Goyim. Alors, ils disent, mais Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme prisonnière. Donc, on voit déjà que c'est un titre pas bien. Tout ça, ça, c'est faux. Parce qu'un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme prisonnière s'il n'y a pas des témoins qui témoignent que le Goyim ne l'a pas touché. Mais du moment qu'il y a une personne qui témoigne qu'elle n'était pas touchée, elle est permise. Toutes les questions que le Cohen demande, tout ça, c'était encore une fois mettre du sable dans les yeux des gens ou par ignorance, ils essayent de refuter. Mais c'est un génie, c'est un flamme, c'est un génie. Peut-être il se trompait sur certaines choses, ça c'est possible, mais globalement, c'est un génie. Ceux qui racontent et ceux qui trucs, on voit, ça correspond à ce que la Gemara raconte. Il se trompait sur certaines choses. Des fois, il a suivi des historiens goy qui racontent un peu des choses déformées. C'est possible, mais ça, c'est des petites choses là. C'est pas le problème. Un historien, il a le droit de se tromper pour certaines choses. C'est pas tragique qu'il se trompe un peu. Mais globalement, c'est un livre très important. On dit que le Gaon de Vilna, quand on lui a raconté qu'il y a le livre de Flavius en latin, et quelqu'un est venu et lui a traduit en latin, il était tellement heureux, il a dit, mais c'est phénoménal ce livre. Grâce à ce livre-là que tu me racontes en latin, je comprends beaucoup de choses de la Gemara que je n'ai pas compris, beaucoup des événements historiques, que la Gemara passe comme ça en filigrane. Et que des mots, on ne sait pas, mais de quoi il s'agit.
Comment il s'appelle le livre déjà?
Le livre de Flavius, il écrit plusieurs livres.
Non, celui-là.
Contre Appion.
Appion,
A-P-I-O-N. De mémoire, de célèbre mémoire triste. Appion. Alors, tu l'as trouvé sur Internet? Hein? Tu as ouvert Internet?
Non, j'ai pas ouvert, mais je...
Après, quand c'est fini.
Après, oui.
Oui, il a écrit un livre qui s'appelle Antiquité, où il raconte toute l'histoire du Tanakh, toute l'histoire du Tanakh jusqu'à son époque, avec des midrashim, c'est un tamitracham, avec des midrashim, avec plein de choses. Il a écrit le goyim pour que les goyim peuvent apprendre qu'est-ce que c'est l'histoire juive. Il était après la Chérouban de Beit Hamikdash, il habitait à Rome, il était nourri par Titus. Bon, là, il a un peu triché. Il a dit Titus était un bon, il était gentil, etc. Bon, on a bien compris. Il a dit dans son introduction que tous les historiens qui sont à la solde d'un roi, ils sont obligés de mentir pour faire plaisir au roi. Mais dans cette histoire de la guerre en Eretz, moi, j'ai assisté, j'ai été là-bas, j'ai raconté la vérité, mais sachez que Titus me paye, il me loge ici, nourrit, loge à Rome. Pour dire que quand il s'agit de Titus, alors je ne peux pas raconter la vérité. Donc, il dit que Titus en vérité était gentil, mais les Juifs, ils se sont entretués entre eux tellement fort que Titus est venu pour sauver les Juifs de leur propre destruction. Et il dit, mais je suis payé par Titus. C'est lui, moi. Donc, ça veut dire, tu as bien compris, il ne faut pas être bête. Mais tout le reste, en tout cas la grande majorité, là, est juste. Alors, nous allons continuer. Alors, Amar Rabbi Chama et Rabbi Chanina, Shalosh Matnuniot Itmin Yosef et Mitzrayim. Trois trésors, Yosef il a caché en Égypte. Achat Nidgalte le Korach. Un trésor était dévoilé à Korach. Korach. Comment Korach il a dévoilé? Comment Korach il est tombé sur la banque Knokfor? Comment ça s'appelle? Knokfor, ça s'appelle en Amérique là? Où il y a les lingots?
Fort Knox.
Il y avait trois Fort Knox en Égypte et un, et Korach, il a trouvé. Comment il a trouvé ça, ce Korach? C'est un malin déjà en Égypte. Dans le désert, c'est un malin. Il a réussi à ramasser tous les opposants à Moshe. Il était le plus grand manipulateur et opposant à Moshe. Un génie, c'est Korach. Et déjà en Égypte, il a manipulé, il a trouvé l'or et il a pris les lingots pour lui. Il était archi riche. V'chad nitgalta l'Antoninus ben Assuiros. Et une était dévoilée à Antoninus ben Assuiros, Antonin, le copain de Rabbi. Le copain de Rabbi, il a conquis l'Égypte aussi. C'était l'empereur romain. C'est les Romains, ils ont conquis tout le Proche-Orient. Et lui, il a fait donc une visite. Il a fait une visite en Turquie aussi. Il était à Tibériat aussi, étant donné qu'il a étudié avec Rabbi. Il avait un palais là-bas et de souterrain, il est parti chez Rabbi étudier. Et celui-là, il était en Égypte. Et quand il était en Égypte, ça se dévoilait chez lui. Et avec cet or, cet argent, il a donné à Rabbi. Toute la yeshiva de Rabbi était nourrie par Antoninus. Antonin, c'est pour ça qu'il était riche. Et il a étudié, il avait le plus grand kollel. Rabbi, il avait le plus grand kollel d'Eretz Israël. Il a réuni tous les chachamim. Et comme ça, ils ont fait ensemble la Torah Shebalpé, les Mishnayot. Ça, c'était un des grands miracles. Depuis Moshe jusqu'à Rabbi, il n'y avait pas de Torah ou Gedoula b'makom echad. Le plus grand Tamid Chacham sera le juif le plus riche et le plus de pouvoir. C'était qu'à l'époque de Moshe et à l'époque de Rabbi. Et grâce à cet argent-là, il a pu réunir les chachamim qu'ils ont pu étudier. Ils ont réussi à sauver la Torah Shebapé. Et après, depuis Rebbe jusqu'à Ravashi, il n'y avait pas de Torah ou Gdoula b'makom echad. Ravashi aussi était très, très riche et était le plus grand chacham des Juifs. Il a réuni tous les chachamim d'Israël, il les a nourris, logés. Et ensemble, ils ont écrit le chat. Ce sont des miracles comme Akadosh Baruch Hu, il a fait. Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah écrite. Et Rebbe, il a écrit la Mishnayot Torah Shebalpé. Ravashi, il a écrit la Torah Shebalpé, la Gemara. Et pour faire ça, il faut être riche. Et donc, Antoninus, il lui a donné la Gemara, il lui a donné l'argent. Tous les jours, il a apporté une pleine caisse d'or et des diamants et des perles. Et d'où il avait cet argent? Du trésor qu'il a trouvé en Égypte. Et c'était stocké par Yosef. Ah, maintenant tu comprends beaucoup mieux l'intelligence de ce Yosef. Voyez la quête, Yosef et quoi la caisse. Et Yosef, il a ramassé tout l'argent qui est venu en Égypte. Toi, tu crois que tout ça, c'était pour faire plaisir à Paro? Toi, tu crois que tout ça, c'était faire plaisir pour qu'il peut vendre le blé pour sauver la population égyptienne et pour sauver la population de Canaan et pour sauver Yaakov Avinu? Et ce Yosef, il avait en vérité Ruach HaKodesh. Cet argent que je le ramasse pour qu'un tiers, il tombera dans la main d'Antoninus afin qu'il nourrit Rabbi. Mais comment les chemins du bon Dieu sont profonds. Mais tu entends quelle bombe atomique la Gemara nous raconte ici. Ben, il faut être un bon Dieu pour avoir des calculs comme ça. Il donne à Yosef le pouvoir en Égypte et il fait une histoire de 7 années de famine et de 7 années rassasiées. Il donne à Yosef l'intelligence de vendre. Il ramasse l'argent et cet argent révèle. Il n'y a pas mieux que le bon Dieu lui-même, hein? Alors, mais pourquoi il a donné un tiers à Korah?
Peut-être que plus tard, peut-être que nous aussi, on va trouver de l'argent que Joseph, il a caché.
Mais parce que tu as vu le prochain morceau de Mara. Ah, voilà. Parce que soit tu as Ruach HaKodesh, soit tu as regardé.
Mais comment ils l'ont trouvé?
Nous raconte,
j'ai pas Ruach HaKodesh.
Comment
ils l'ont trouvé?
Il avait un code. Il était un hacker. Et il a hacké le code de ce trésor. Comment il a trouvé? Je ne sais pas. Il a demandé à des archéologues, chercher dans un Toukatamon ou je ne sais pas quoi, chercher dans la tombe de tel et tel roi. Et l'or était stocké. Vous lisez un peu les histoires du pillage.
Hein? Stocké, Korah, il a pris qu'un tiers, il a laissé le reste?
Eh bien, il n'a pas trouvé tout.
Il avait trois trésors.
Éparpillé dans différents endroits. Mais pourquoi le bon Dieu, il a laissé trouver Korach? Il laisse trouver Antoninus pour nourrir Rabbi, je comprends bien, mais pourquoi le bon Dieu, il a laissé trouver Korach? Parce que le bon Dieu, il voulait un peu aider à Korach. Parce que comme ça, il va rentrer dans le sous-sol. Peut-être ça aussi, le bon Dieu, il a organisé. Il se dit, je laisse Korach, il sera riche, il va réunir tous les Juifs contre Moshe, Moshe va les mettre dans le sous-sol, et ce sera écrit dans la Torah, cette rébellion, et ça fait peut-être bien pour Moshe. On a vu la tzitkout, la kedusha de Moshe, et ces rebelles qui rentrent dans la terre, parce que lui, Korach, c'est le chef de tous les rabbins réformés et de toutes les fausses accusations contre les vrais chachamim, contre les tzadikim, le grand manipulateur. Et il fallait que ça se passe déjà à l'époque de Moshe. Imaginons-nous qu'à l'époque de Moshe, on n'avait pas eu d'opposition. Imaginons-nous. À l'époque de Moshe, personne ne s'oppose. Après, dans les futures générations, les gens ils vont dire, en vérité, Moshe n'était pas si grand, on pouvait réclamer quelque chose, mais les gens ils étaient tellement sous sa influence, c'était un gourou, ils avaient tellement peur de se rebeller contre lui. Alors les gens, ils se sont tués. Mais en vérité, on trouvait plein de failles chez lui. Comme ça, les futurs générations vont le dire. Non, qu'est-ce que le bon Dieu il a fait? Eh bien, qu'ils viennent tous. Korach, Datan, Vaviram. Datan, Vaviram, ils ont accusé Moshe d'immoralité. Ils ont dit que Moshe, il a fauté avec des femmes. Toute la saleté qu'on pouvait parler contre un homme, qu'il est voleur, il fait de népotisme, il donne à sa famille toutes les grandes places, etc. Tout ce qu'on peut parler contre un chef, tout a été dit sur Moshe. Et le bon Dieu, il était intéressé qu'on le dise à Moshe, devant Moshe, dans la génération de Moshe, afin qu'Hachem, il intervienne avec le merveille, avec les arguments que Moshe disait, afin que le Korach se déconfiture et que les gens ils voient que le vrai chef, c'est Moshe. Ça aussi, c'était voulu, Minashemaï. Mais la deuxième, c'est Antoninus. Mais Achat est le troisième trésor que nous a le Tzadikim la Atidlavo. Est réservé pour le Tzadikim la Atidlavo. Donc, il doit exister encore une espèce de tombe en Égypte où là-bas, il y a, des lingots. Et ça va être donné pour le Tzadikim comme Achiri va venir. Point. Maintenant, la Gemara va continuer à développer. Osher, Shamour, le Baalav, le Ra'ato. La richesse qui est réservée pour son patron, la râteau pour son mal. Ça, c'est une tragédie. Le rabbin Shlomo, dans Kohelet, il dit qu'il existe des fois un homme, il est très riche, mais ce n'est pas pour son bien, c'est pour son mal. La richesse l'amène à la destruction. Il existe du hocher de la richesse, Shamour. Il est réservé le balaf pour son patron, la râteau pour son mal. L'argent va le détruire. Amar Rabbi Shimon ben Akish, zu oshro shel Korach, c'est la richesse de Korach. Ça veut dire la chutzpah de Korach, de s'opposer à Moshe, il n'a pu avoir cette chutzpah, il n'a pas eu à avoir ses adeptes, il n'a pu pas influencer tous les gens autour de lui, 250 chefs du Sanhedrin, et tout le peuple juif qui était avec lui, il ne pouvait pas que parce qu'il était riche, les grands milliardaires, ils ont un pouvoir. Ils ont un grand pouvoir. Et ça, c'était la richesse qui était réservée pour sa chute. Et c'est marqué, tous les yekoum qui étaient à leurs pieds se fait avaler dans le trou. Amara Benazar, Zoumamono, chez l'Adam. Quand on dit yekoum, c'est l'argent de l'homme, la richesse. Chema Amidoual Raglav qui met l'homme sur ses pieds. Un homme qui est riche, il tient sur ses pieds. Un homme qui est pauvre, il doit mendier, il n'est pas vraiment sur ses pieds. Alors, c'était du mauvais argent. Ça veut dire, quand il a trouvé cet argent en Égypte, il n'aurait pas dû le trouver. Qu'en irait qu'il a quelque part manipulé quelque chose en Égypte. Il est parti chez Paro, il est parti chez un serviteur. Et il a fait quelque chose de pas bien pour s'accaparer cet argent. Et lui, il était tout heureux d'avoir tout cet argent. En vérité, cet argent, lui, a été fatal. Cet argent, il n'aurait pas dû prendre. Ça lui a causé du mal.
Il a quand même eu Shmuel.
J'ai pas entendu.
Il a quand même eu Shmuel, non?
Oui, Shmuel, le prophète Shmuel, est un descendant de Korach. Korach était un grand, grand Amitracham. C'est un Eloui. C'était Korach, Noseha Aaron Haya, il portait l'Aaron à Kodesh. D'abord, il vient de la famille la plus prestigieuse de la tribu de Lévi. Il y a trois familles Lévi, Kahat, Gershon ou Merari. La famille la plus kadosh, c'est la famille des Kahat. Et c'était le cousin germain de Moshe de Aaron, le cousin germain. Il y a Korach ben Yitzhar, ben Kahat ben Lévi. Il était le fils de Yitzhar. Et Yitzhar, c'est le frère de Amram. Kahat, il avait quatre fils, Amram, Yitzhar, Chevron et Uziel. Donc, Ad Kahat, nous avons ici, Kahat était le Rosh Yeshiva, Lévi était le Rosh Yeshiva en Égypte. Et après, avant de mourir, il a donné à Kahat d'être Rosh Yeshiva. Kahat, il a quatre enfants. Le premier, c'est Amram, et Amram, il a Moshe Aaron, et le deuxième fils, c'est Yitzhar, et Yitzhar, c'est Kahat. C'est le cousin germain, c'est une grande personnalité. Mais autant que Moshe Rabbeinu ne cherchait pas l'argent, et même l'âne qu'il est venu, il n'a pas pris des Juifs, il n'a jamais pris profiter de l'argent des Juifs, et lui, il a fait une manipulation pour se devenir millionnaire. Amar Rabbi Levi l'a dit, Masoui shalosh meot peridot lebanot hoyu maftechot bet knazav shel Korach. Masoui une charge, shalosh meot peridot lebanot, de 300 peridot, une perida, c'est une mule qui peut porter plus qu'un âne. Donc il y a 300 mules blanches, qu'on dirait les mules blanches sont archi costauds, elles peuvent porter d'une charge plus qu'un âne. Alors la charge de 300 mules blanches, Hayu maftechot, et elle portait les clés bet gnazav des trésors chez le Korach. Ve kulhu et tous aklidi ou klipi de Gilda. Tous ils étaient aklidi, des clés, de ou klipi. C'est quoi klipi? Ve kulfi de Gilda. C'est quoi Gilda? Ou klipi de Gilda. C'est quoi clip de Gilda? Calif, ça veut dire de déplissure. Et Gilda, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. En tout cas, il y avait 300 clés, il y avait 300 ânes qui portaient les clés des trésors. Bon, c'est une façon de parler. Je ne sais pas prendre ça à la lettre, c'est des allusions. Mais en tout cas, il y a une grande richesse, Bekitsur. Amar Rabbi Shmuel ben Achmini, Amar Rabbi Yonatan.
Il dit or, or, or.
La peau, guilde, c'est, ah oui, guilde, c'est de la, du cuir, oui. Ouais. Guilde, c'est le cuir, et clipi, clipe de guilde, l'épluchure de la peau, la partie extérieure de la peau, des clés, la clé extérieure de la peau. Bon, alors. Odecha, Amar Yonatan, Odecha ki anitani. Ah, on continue le Hallel qu'on chante pendant pour Pesach. Odecha ki anitani vatei li lishua. Alors, Odecha, je te remercie. Ki anitani, car tu m'as fait souffrir, Amar David. Ça, c'est David qui a dit, je te remercie Dieu que tu m'as fait sourire. Le prochain verset, Even moasua banim haite le roshpina, la pierre. Et les constructeurs ont méprisé, est devenue la pierre qui était la pierre angulaire sur laquelle toute la maison est construite. Ça veut dire quoi? Quand on fait une maison, on met des pierres une sur l'autre, mais la pierre dans l'angle, il est archi important. Il doit être costaud, il doit se poser bien. Donc, Yisha, il a dit, Ama Yisha, Yisha, c'est le père de David, c'est-à-dire qu'il avait 8 enfants. Et tous les 7 enfants étaient pas, et le dernier, le petit, était devenu le roi. Et tous les frères, ils ont méprisé David. Even la pierre, Maas Abonim, que les constructeurs ont méprisé, c'est-à-dire les frères, les enfants d'Ishaï, cette famille devait venir le roi, ils ont méprisé David. Et lui, Aïtal Roshpina, lui, c'est devenu la pierre angulaire. Ça, c'est Ishaï qui a dit. Mais, Tachem, Aïtazot, Amruechav. C'est venu de Dieu. Qui a dit ça? C'est les frères. C'est venu de Dieu. C'est le jour que Dieu fait. Nous allons nous rejouir. Amar Shmuel. Ça, c'est Shmuel qui a dit. Qui c'est Shmuel? Le prophète Shmuel. C'est le prophète Shmuel qui a quoi? Qui a vint David. Il a dit, Zéhayom, le jour que je vins David, c'est Nagila Venismechabo. Anna Hashem Hoshiana Amouechab, ça c'est les frères qu'ils ont dit. Sauve-nous, les frères, ils ont dit ça. À quel moment les frères, ils ont dit ça? À quel moment? Quand David était en danger. Anna Hashem Hatzlichana Amar David, ça c'est David qui a dit. Baruch haba b'shem Hashem Amar Yishai. Et béni Dieu, ce qui vient au nom de Dieu, ça c'est Yishai qui a dit. Berachnuchem ibeit Hashem. Ça, c'est qui? C'est Amar Shmuel. C'est Shmuel qui dit. El Hashem vayar lanu amrokulan. Ça, c'est tout le monde, il a dit. Isruchak ba'avotim. Nous on l'a attaché une fête à Avotim, à Manchmoué. C'est Shmoué qui a dit. Keilia Tov et Odeka, tu es mon Dieu et je vais te remercier. Amar David. Ça, c'est David qui a dit. Eloka Yaromemeka Amrukulan. Ça, c'est tous, ils ont dit ça. D'accord. Tenan Hatam. Maintenant, on va continuer. Tenan Hatam. On a vu là-bas. Makom Shenahagu Lichpol Yichpol. Dans une ville où la coutume est les Lichpol, de doubler les psukim, Yichpol, on double. C'est à partir de quel moment? Quand on dit Menhameitza Karatika, après Pitru Lishar et Tzedek, on double. En vérité, tous les Tehilim, il est doublé. Quand on regarde bien, tous les sujets, tous les psukim il y a toujours une doublure avec un peu d'autres paroles, mais c'est le même sujet. Chaque sujet, en vérité, écrit deux fois. À partir des pétroliers, ce n'est pas marqué deux fois. C'est pour ça que certaines communautés ils ont la coutume de doubler, dire le verset deux fois. Dans une ville où on double à partir des pétroliers, alors on double l'ifshot. Dans la ville, on ne le dit qu'une fois, ifshot. On ne le dit qu'une fois. Donc, dans nos choules, on a tous la coutume de le doubler. Ce n'est pas le Pater Eliyahu qui l'a inventé, c'est la Mishnah qui nous le dit. Le Barech Acharav, le Barech Acharav. Dans les communautés, on a la coutume de faire un bracha après Hallel. On fait la bracha. Chez nous aussi, il fait Yaluch Hashem à la fin. Baruch Hashem, Melech Moulal, Batish Bachot. Dans une communauté, on a la coutume de terminer le Hallel avec une bracha. Yavarech, on fait la bracha. Akol Kimina Avil. Amar Abaye, Abaye l'a dit. Quand on dit que dans une ville, on a la coutume de faire un bracha, on fait. Si la coutume est de ne pas faire un bracha, on ne fait pas. Ça, c'est après Hallel. Avant le Fanav, mais avant le Hallel, mitzvah l'avarer. C'est une obligation de faire un bracha. Dans la vie de Samuel, quand la mitzvot me varer Hallel, ouvert la siatan, toutes les mitzvot, on doit faire un bracha avant de l'appliquer. Maï mashma, ouvert, ça veut dire avant de le faire. Maï mashma. Comment tu déduis de haï ouvert l'ishnedan que tu me parles? Alors, Nachama Yitzchak, d'Ichtiv, car il est marqué, Vaya rots achimaatz derech hakikar vayavor et akushi. Achimaatz vaya rots. Il a couru achimaatz. Pourquoi il a couru? Pour apporter à David Emeler que Avshalom il est mort. Pendant la rébellion, Avshalom il est mort. Et quand, tout de suite, Achimaatz, il voulait quoi? Il voulait le raconter à David et il a demandé à Yoav, donne-moi la permission de raconter. Il a dit, ne raconte pas.
C'est qui Achimaatz?
Achimaatz, c'est le fils. Il y avait Eviatar Cohen, il avait Tzadok Cohen. Et d'abord, c'était Eviatar et après Tzadok. Et les deux Kohanim, les deux amis de David et Melech, ils avaient deux enfants, chacun avait un fils. Et David, il les a nommés comme espions. Ils étaient les espions pendant cette guerre pour espionner l'histoire de Avshalom. Et donc Achimaatz, il était à côté de Yoav quand Yoav il avait tué Avshalom. Et d'abord il voulait pas partir. D'abord il voulait pas le laisser partir. Il a dit on va envoyer un Cushi. Il y avait un Cushi, un Black. Il a dit, Black, vas-y, toi, tu dis à David ce qui s'est passé. Et après, Achimaatz, il a dit, s'il vous plaît, laissez-moi. Il a dit, bon, d'accord, alors tu vas, si tu insistes, tu vas. Et voilà, Achimaatz, il a couru. C'est un des fils, ou de Tzadok, ou de Eviatar. Il a couru derrière Hakikar, en passant la vallée. Vayavor, il a dépassé et a couché le noir. Et à la fin, le texte dit qu'Achimaatz, il était plus vite. Et David de Meller, son serviteur, il était en haut du toit. Il a vu quelqu'un courir. Alors, il a dit, David, je vois quelqu'un courir. Il vient. Alors, il a dit, c'est qui? Il a dit, il me semble, c'est Achimaatz. Il a dit, ah, Achimaatz, ça, c'est un type tzaddik. Alors, Achimaatz, c'est un tzaddik, il va apporter sûrement une bonne nouvelle. Et Achimaatz, il est venu. Et il a raconté la mauvaise nouvelle qu'Absalom il est mort. Et David il s'est mis à pleurer. Alors, Vayavor est accouché. Abba Yamar Mihacha. Abba il a dit donc, Vayavor, c'est-à-dire dépasser, avancer. Il était avant. Il était le premier à avoir dépassé les embûches, et il est le premier. Yaakov, il passait devant sa famille. À la rencontre d'Esav, Yaakov, il s'est mis en première ligne. Il a mis tous ses femmes, ses enfants, etc. Et lui-même, Avar, il a dépassé tous. Ils étaient les premiers, les Fnehem devant eux. Et que d'Amriana qui raconte, mais Achad, un troisième verset, va y avoir Malkam, les Fnehem, Vachem, Berosham. Et le roi, il passe devant le peuple et Dieu, il sera à leur tête. Tanya, on a vu dans une braïta. Rebi Kofel Badvarim. Rebi, il doublait des choses. À partir de Baruch Haba, Beshem Hashem, il a doublé. Rabbi Elazar ben Parata Mosif Badvarim. Il a ajouté des choses. C'est-à-dire quoi il a ajouté des choses? Maï Mosif. Qu'est-ce qu'il était Mosif? Amar Abaye. Abaye dit Mosif Lichpol Meodecha Lemata. Il ajoute qu'on double à partir de Odecha Ki Anitani. Le Firebi, c'est seulement à partir de Baruch Haba, mais d'après lui, il faut doubler à partir de Odecha. Darash Ravavire, il a fait un discours à Ravavire. Zimnina Marlo Mishmeida. J'écoute.
Beaucoup, hein. Ça coupe beaucoup.
Ça coupe.
Ouais, plein de fois, ça, on vous est coupé.
Darash Ravavire. Ravavire, il a fait un discours. Zimnina Marlo Mishmeida Rav. Parfois, il est dit en nom de Rav, Zimlin Amar la Mishmei de Ravasi. Maintenant, vous entendez ou pas? Vous entendez? Faites comme ça. Oui. Zimlin Amar la. Oui. Zimlin Amar la Mishmei de Rav. Des fois, il est dit en nom de Ravasi. Zimlin Amar la Mishum de Ravami. Maï Dichtiv. Qu'est-ce que c'est ce qui est écrit? Vayigdal hayelet vayigamal. Et là, l'enfant il est devenu grand, vayigamal, et il s'est sevré. Qui sait de qui il s'agit, vayigdal vayigamal? C'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il y avait un grand festin, vayigamal, quand il avait 2 ans, et que sa mère a arrêté de lui donner à boire, il y avait un grand festin ce jour-là. Atida kadayoch la sot souda la tzadikim, beyom shiigamel chazdo le zaro shel Yitzhak. Dieu fera un grand repas au Tzadikim le jour qu'il va sevrer Shigamel, qui va faire un kimilot chassadim à la descendance d'Yitzhak. Ça veut dire qu'il y aura un grand repas quand Mashiach va venir et un immense repas. Ah, est-ce que nous allons être invités à ce repas? Ça, c'est le repas. Ouais. La chas ochlim et shotim, après qu'on va manger, on va boire. Notnim lo lavram avinu koshel bracha. On offre à Abraham Avinu le cause de Baracha, vous faites Birkat Hamazon, monsieur le rabbin. Vamar lehen, il va répondre, Eini mevarech. Moi, je ne veux pas faire Birkat Hamazon. Shiatsa mimene Ishmael, parce qu'il avait un fils Ishmael. Alors quoi? Il avait peur que si lui va bénir, la Baracha va revenir sur lui et sur ses enfants. Ishmael sera béni. Je ne veux pas. Amor lo l'Itzrak tilubrech. Alors Abraham dit, Yitzhak, vas-y, fais-toi la bracha. Omar, le hen, il leur a dit, Eini mevarech, je ne veux pas, Shiatsa mimeni Esav. Demain, il est sorti Esav, donc je ne peux pas faire la bracha. Amar le Yaakov, tout le brach. Alors, vas-y, Yaakov, fais-toi la bracha. Amar, le hen, il leur a dit, Eini mevarech, je ne fais pas, Shenasati shtei achayot b'chayehen, parce que je me suis marié avec 2 sœurs, quand les 2 sœurs étaient vivantes. Shatida, Torah, le osran alai, plus tard, la Torah va l'interdire. C'est vrai que maintenant, ce n'est pas encore interdit. Mais plus tard, ce sera interdit. Donc, c'est quand même un geste qui a un problème. Donc, ce n'est pas à moi de faire la bracha. Amar le Moshe, tout la bracha. Il dit, va la Moshe, fais-toi la bracha. Omer l'a mis le redit, et ni me verra, je ne vais pas faire la bracha. Chelo Zachit, ils connaissent l'Eretz Israël. Je n'ai pas eu le schout de rentrer en Eretz Israël, l'Obachaev et l'Obamouti, ni pendant ma vie, ni pendant ma mort. Amar le Yeshua, c'est-à-dire même, il n'est pas entré en Eretz Israël. Omer le Yeshua, tout le barach. Vas-y, Yeshua, fais-toi la bracha. Amar le hen, lui redit, et ni me barach, chelo zechit, il est ben, j'ai pas eu le schout d'avoir un fils. Dichtiv, car il est marqué, Yeshua bin Nun. Et après, dans Divrei Yamim, c'est marqué, Nun beno, Yeshua beno. Et après, c'est pas marqué son fils. Dans Divrei Yamim, où on cite là-bas tous les personnages avec leurs enfants, après, Yeshua, ça s'arrête, il n'avait pas de fils. Il n'y a pas de fils, je vais pas faire la bracha. אומר לו לדוד, תו לו ברך. דונק ישוע הדיע דוד המלך, וזה יפה תו על הברכה. אומר להן, ילורדי, אני אברך. מה עשבך, יש בפיר ברכת המזון. ולי נאל אברך. יעמו עשה רוויין דפר לברכה, שנאמר, פה עושה שהוא עושה סע, ובשם השם אקרא. לקופ של הישוע, עשה שווה לווה, ובשם השם אקרא. יעונן דו דיו שווה להפלי. ומתנו עריב למשנה דאין מפתירין, אחר הפסח אפיקומן. מתנו אל עריב אפיקומן. יעקור קומבי, יעקור אנדף, un daf et demi. Et après, on aura fini. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore un daf et demi. On le fait pour la moed ou on le fait avant Pâques? Un peu plus tard?
Si vous pouvez, on fait là.
On va essayer à 5 heures peut-être. Est-ce qu'on va la faire à 5 heures, de 5 à 6?
Il n'y aura pas, il y aura personne à 5 heures.
Il n'y aura personne à 5 heures. Alors, on fait un... Il y en a quelqu'un pour les 10e fois, il me téléphone. Attendez une seconde. Allô? Allô? Oui?
Pourquoi t'as allumé,
Hein?
Pourquoi t'as allumé? Ouais, je croyais. C'est bizarre, c'est toi qu'on voit en photo.
Vous êtes toujours là? Allô? Vous m'entendez? Faites comme ça. Vous m'entendez? D'accord, j'avais ce téléphone. Bon, c'est... D'accord, j'ai... Parce que j'avais écrit un tchouba ce matin. Vous avez vu la tchouba que j'ai écrit ce matin pour les hôpitaux?
Oui, pour téléphoner?
Oui, oui, on a tous été étonnés. Ouais.
Pour téléphoner?
Oui, alors les gens, ils viennent de recevoir déjà deuxième téléphone. Ils me demandent est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est. J'ai vraiment dit ça. J'ai dit oui. C'est téléphoner, c'est quoi? Téléphoner à l'hôpital, ça montre. Les médecins et les infirmiers disent voilà, c'est une personne que la famille est attachée. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont âgées, il n'y a personne qui s'intéresse à eux. Et quand la famille voit que personne s'intéresse à eux, ils se disent, bon, ils peuvent le dire comme ça, parce que l'homme. Et quand ils voient que la famille téléphone tous les jours, ils se disent, et ils veulent qu'on se mette, alors. C'est comme ça, on est rassasié, on dit.
On a droit de téléphoner à l'hôpital?
Ça dépend dans quelles circonstances. Si, normalement, il ne faut pas téléphoner. Mais si le téléphone encourage les médecins et les infirmiers de faire le maximum, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande pression, ils veulent les lits, etc., etc., et les décisions de médecins, est-ce qu'on continue, on n'insiste pas, on n'essaye pas, c'est, des fois, c'est très délicat. Est-ce que je vais faire un effort ou on lève les bras? Et les médecins, ils sont confrontés à ce choix. Alors, quand la famille téléphone et oui, comment, et nous voulons. Alors, il s'est dit, bon, il faut que je fasse. Quand on téléphone pas 3 jours, imaginez, ou 3 jours, alors qu'est-ce que le médecin dit? C'est mieux, mais hein? Bon, même la famille, bon, ils n'ont pas d'espoir, ça va, ils ont compris. Et alors, Chas v'Shalom, c'est à peu près c'est les bas, donc il ne faut pas baisser les bras. Vous connaissez l'histoire de Rav Abramsky? On raconte qu'il y avait un juif qui était malade. Et pour le sauver, il fallait intervenir auprès d'un médecin, d'un hôpital, je ne sais pas quoi. Et ceux qui avaient la capacité, c'était un homme très riche à Londres, qui avait de l'influence, qui lui a fait un téléphone comme il faut, alors ça marche. À la vendredi après-midi, le fils du malade téléphone, Rav, faites quelque chose, parlez avec ce truc-là, vous pouvez, il peut influencer. Alors il a dit, d'accord, je le ferai. Et après, 2 heures après, il téléphone le fils, Rav, vous avez téléphoné à ce monsieur? Il dit, non, pas encore, un peu plus tard. Il dit, Rav, c'est Pekouach Nefesh. Il dit, c'est là, tu vas le faire. 2 heures après, le téléphone, Rav, vous l'avez fait le téléphone? Non, pas encore. Mais Rav, c'est chaque seconde compte. Il dit, je vais le faire. Après, le Shabbat, il est rentré. Une fois le Shabbat, il est rentré. Alors, Abramsky, il a pris le téléphone, il téléphone à ce riche. Monsieur Truc, il y a un Pekouach Nefesh ici, il est à l'hôpital, il faut intervenir, est-ce que vous pouvez faire? Il dit, bien sûr. Et il est intervenu. Et Baruch Hashem, tout était bien. Et dimanche, le juif vient chez Abramsky, il dit, Rav, qu'est-ce que vous avez fait là? Il dit, je téléphone vendredi soir, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez Mahalel Shabbat? Et si ça aurait été trop tard, et pourquoi vous m'avez laissé dans cette galère? Et d'ici, j'aurais téléphoné à 2 heures vendredi, qu'est-ce que ce riche, il aurait pu dire? Oui, le Rav, chaque fois, il me téléphone, il faut que j'intervienne pour lui et lui, c'est pas si grave. C'est pas Pekouach Nefesh, c'est pour eux. Il veut faire une chambre de 2 personnes, il veut une chambre privée, il veut tout le truc, j'ai pas le temps, mais je peux pas me truc. J'ai attendu jusqu'à Shabbat, je lui téléphone Shabbat. Alors, il lui dit, quoi, le Rav, il téléphone Shabbat? Ah, ça, c'est plus quoi. Sinon, on n'aurait pas téléphoné. Voilà, ça, c'est... Bon, c'est un peu différent, l'histoire, mais là-bas, il s'agit d'un juif qui comprend. Mais même ici, le gars, il va qu'on est derrière. Alors, on va voir la Mishnah. « Eimaftirin acharapes rafikoman » Qu'est-ce que c'est comme histoire? « Eimaftirin » On n'est pas « maftir ». Ça veut dire quoi? Quitter le repas.
Ça veut dire un appel pour influencer le goy, mais pour soulager la juive elle-même, non?
Non. Ça, c'est. Sauf si c'est une femme qui risque de faire une crise cardiaque de douleur, ça, c'est autre chose. Si les enfants sont en bonne santé et ils peuvent porter le problème, on n'a pas le droit de téléphoner pour soi-même. Mais, sauf si une femme elle est cardiaque et elle a besoin de nouvelles. Dans ce cas-là, aussi, c'est permis, oui. Et normalement, les enfants sont disant bonne santé, on n'a pas de téléphoner, mais ici, c'est pour influencer le goy. Et maftirin acharapes rafikoman. On n'a pas le droit de quitter le après le Pesach afikoman. C'est quoi afikoman? Soit afikoman, c'est-à-dire un dessert. On ne mange pas un dessert. Afikoman après le Pesach. Alors, la Gemara dit « Mai afikoman ». C'est quoi afikoman? Hein, la Gemara aussi a la même question que nous. Parce que c'est un mot qui n'est pas très habitué. Ce n'est pas un mot normal. Ça n'existe pas dans le chasse, le mot afikoman. Ça existe une fois d'or pour le Pessah. C'est quoi? C'est un mot grec. C'est quoi ça? « Mai afikoman ». Amara Avrav, il a dit « Shelo yakru michabura lechabura ». On n'a pas le droit de quitter d'une groupe à l'autre. Alors, il y a une halakha dans la Torah. Qu'un korban pesach, il faut le manger, b'chabura. On se groupe, toujours en groupe. Il y a 20, 30 personnes, ils achètent ensemble un agneau et on le grille et on se met tous autour et tout le monde y mange de cet agneau. Et on n'a pas le droit de manger le korban pesach si on ne se fait pas nommer avant la shrita. Avant la shrita, il faut savoir qui exactement fait partie de la groupe. Quelle est la logique de la Torah? C'est-à-dire que la Torah veut que les gens sont dans la même groupe, dans deux groupes im. Pourquoi? D'abord, il y en a la fois quand on fait la shrita des korban pesach, il y en a un de la groupe qui possède un kezait chametz, et ben on y a fait le shochet fait une avira. Donc il faut un groupe que personne n'a jamais a du chametz. Mais à part ça, on doit raconter les Yetziat Mitzrayim. Et si tu prends un groupe de grands chachamim et de grands amaratim à côté, ça tourne par an. Les chachamim, ils veulent se parler leur chidushim. Et la mara, s'y comprend pas, c'est difficile. Chacun, il doit avoir un groupe homogène. On dit, ah, c'est Rabbi Elazar, Rabbi Yeshua, Rabbi Kiva, Rabbi Yossi Glili, Bayom Soubem Nebrak. Et ils ont parlé, la Yetziat Mitzrayim, jusqu'à les élèves sont venus. Ils ont dit, il faut faire Kriyat Shema. Ça veut dire que les élèves, ils étaient dans une autre chambre, pas avec les maîtres. Pourquoi? Parce que les maîtres, ils avaient la chance d'être ensemble. Normalement, les maîtres, ils ne faisaient pas qu'être ensemble. Chacun, il était le rave de sa ville. Rabbi Kiv était le rave de Nebrak, Rabbi Yossi était le rave de Tzipori, et Rabbi Yossi Glili au Galil, et Rabbi Lezer était à Loud, et Rabbi Tarfon, je pense aussi, était à Loud. En tout cas, chacun, il avait sa communauté. Ils n'étaient pas ensemble. Maintenant, pour une raison, on ne sait pas, ils étaient ensemble. Et comme ils étaient ensemble, chacun voulait passer les chidushim. Et les chachamim, quand ils parlent avec des allusions, tac, 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 ils font passer des milliers, de chidushim et des histoires et des diukim dans peu de temps. Si les élèves sont là, ils ont dit, on ne comprend rien, mais rabbin, il ne faut pas comprendre. Alors, il faut leur expliquer lentement. Eh bien, le rav, il ne peut pas. Donc, il disait, cette fois-ci, on est ensemble, on va faire le seder ensemble. Donc, chaque fois quand on fait le seder, il faut un groupe homogène. Donc, la Torah, elle a donné des groupes. Et il y en a la halakha qu'on n'a pas le droit d'aller dans un autre groupe manger. Même, tu prends ton kezaï de ton corps en pesach, tu vas dans une autre chambre, dans un autre groupe, tu n'as pas le droit de manger là-bas. Ça aussi, pour pas qu'il y ait des va-et-vient. Ça veut dire quoi? Parce que le seder, il faut raconter tout le seder. Imaginons-nous quelqu'un, il va écouter 10 minutes dans cette chambre chez cette groupe, 10 minutes dans une autre chambre, 10 minutes dans autre chambre. Imaginons-nous, dans chaque groupe, on raconte plus la même chose. Et eux, ils racontent le dam, makadam, très joli. Et après, ils disent, ça y est, je vais aller dans un autre groupe. Et eux, ils commencent à raconter makadam. Après 10 minutes, ils vont dans un troisième groupe, encore une fois makadam. Et bien, toute la journée, ils vont entendre makadam, ils ne vont rien entendre. Ne change pas, commence un groupe du début jusqu'à la fin et tu fais tous les sédats comme il faut.
Ben c'est, alors, ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit là, le Rashbam. Il dit que le mot afikomen, c'est ça que ça veut dire.
Exactement. On n'a pas le droit de partir d'une groupe à l'autre. Nous allons dire le Rashbam.
Il dit comment? Il dit parce que tu coupes le mot en deux. Allô?
Oui.
Il dit tu coupes le mot en deux.
Oui.
Il dit apiku manaihu.
Alors je lis Rashi. Amarav shloyakru mechabura lechabura. Achar shachlu apeser bechabura. Après qu'ils ont mangé les pesers dans la groupe, lo yelchu lechabura acheret. Qui vont pas se promener dans un autre groupe lechol. Lo pat velo shum davar. Ni pain et ni autre chose. Zira dil maat ou le meichel et apeser b'shnei mekomot. De peur qu'ils vont manger leur propre korban pesach dans deux endroits. Banan nan stam et Rabbi Yehuda, le halakha comme Rabbi Yehuda bekeis atzolin de pesach nechal bishtei chaburot, bein ha'ochel ochel apesach bishtei mekomot. Ça veut dire un korban pesach, on peut le partager en deux groupes. J'ai un mouton. On avait 30 personnes, on a un mouton. On peut couper le mouton en deux. Et on donne à 15 personnes, vous allez dans une chambre, d'autres 15 personnes dans une autre chambre. Ça, c'est à Pesach Nechal Bishtei Mekomot, à Pesach Nechal Bishtei Chaburot. Le Pesach, on peut manger dans deux groupes, mais la même personne n'a pas le droit de manger dans deux endroits. Et Rabbi Yehuda dit, Rameir dit le contraire. Vach milte de Rav uk mehatam b'shat achila. Là-bas, on parle au moment qu'on mange. Tu n'as pas le droit de manger un morceau de Pessah ici et aller dans une autre chambre, chez un autre groupe, manger là-bas dans Korban Pessah. Et même le pain, tu n'as pas le droit de manger là-bas de peur que tu mangeras ta viande. Avalachar Achila, mais une fois qu'on a terminé de manger, Yachol et Kor, il peut quitter sa chambre, Lomar Halel Bachabura Acheret. Il peut aller dans l'autre groupe pour chanter. Velo Kapid Ela le Echol Bebet Mekomot. Ce qu'il faut faire attention, de ne pas manger le Pesach en deux endroits. Ava l'echol dvarim acherim bim kuman rishon, shari rav. Mais si tu veux retourner après dans ta place et tu veux continuer à manger d'autres choses, tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de prendre la nourriture d'ici et le manger à un autre endroit, de peur que tu vas amener aussi de la viande. Il n'était pas légalé Samuel, Rabbi Yochanan. Et sur ça, Shmuel et Rabbi Yochanan, ils ne sont pas d'accord. Ah, on n'a pas encore lu la suite de la Gemara. Lisons la suite de la Gemara. Je lis encore une fois. Maya Fikoman, Amarav Sheloya, Krome Chabura le Chabura. Va manger dans un autre groupe. Shmuel Amar, Kegon Urdilaï. Par exemple, de Urdalaï, Li, Vegozlaï à la Abba. Moi, j'aime un plat qui s'appelle Urdilaï. Et Abba, qui c'est Abba? Papa, c'est Rav. Shmuel, quand il parle de Rav, il lui donne un titre Abba, c'est mon père. Et Abba, il aimait Gozlaya, des petits pigeons. Alors il dit, Shmuel, il dit, moi, j'aime les Urdelaï. Et Rav, il aime le Gozlaï. C'est ça qu'on n'a pas le droit de manger. Alors je continue maintenant, Rajbam. Il n'était pas légal, Shmuel Rabbi Yochanan Amar, il dit, Kol davar asur lechol, afilu bechaburoto rishona. C'est même si tu ne vas pas dans un endroit, même si tu restes à ta place, tu n'as pas le droit de manger des petits pigeons à la fin du repas. Tu n'as pas le droit de manger un dessert. Bon, ça c'est une autre chose. D'accord. Trois lignes après. Shmuel avait la coutume pour me dessert et manger kmeno pitriot. Ça veut dire des kmeno pitriot, c'est des champignons et des truffes. Rav, ragi lechol achar sudato gozalot. Il avait le coutume de manger des pigeons. Balashon afikoman, c'est que dire quoi afikoman? Otsiu veheviu minemitika. Apportez maintenant des sucreries. Va'atashmu elememar de l'homme iba eshlo yako mechabura la chabura cheret. Pas seulement qu'on n'a pas le droit dans un autre groupe. Et la filo bechaburato asur lechol klum. Même dans sa propre chabura, il n'a pas le droit de manger achar pesach. Afin que le goût de Pessah ne perd pas, ne quitte pas sa bouche. Parce que le corps en Pessah remonte toujours à la fin quand on est rassasié. Les rois, quand ils mangent jusqu'ils sont bien rassasiés. Donc le corps en Pessah, c'est une mitzvah de manger jusqu'on est bien rassasié. Donc on mange à la fin. Si à la fin il veut manger encore un dessert, il n'a pas le droit. Parce qu'il faut que le corps en Pessah sera la dernière chose. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit que gon temarim, kelayot et egozim. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger après le corps en Pessah? C'est temarim, des dattes, kelayot, des blés grillés, des pop-corn, et egozim ou des noix. Alors, quelle est la logique? Il n'a pas dit pour que le goût ne parle pas de la bouche. C'est, le Rajbam il a interprété parce qu'il faut manger le corps en Pessah comme dernière chose, parce qu'il faut manger à la sova. Mais si tu manges après en dessert, donc ça veut dire que tu n'étais pas rassasié avant le dessert comme il faut. Donc, une fois que tu as mangé le corps en Pessah avant la dernière consommation. Or, la Torah veut que derrière Shamalachim Osim, tu dois manger le corps en Pessah comme un roi. Un roi mange jusqu'il est vraiment rassasié. Donc, le corps en Pessah, ça doit être la couronne de la rassasie de ta satiété, on mange vraiment qu'on est bien. Abba, alors Shmuel, il a appelé Rav Abba Papa, car Shmo Shel Rav, ça, c'était le nom de Rav. C'était le nom privé de Rav, était Abba. Il s'appelait Abba. Elobet Kavot, Corinne Oto Rav, Bebavel. Les gens, il appelait Rav, le maître. Moi, je suis Corinne Rabiou d'Anassi Bertisel Rabbeinu. En Eretz Israël, on appelait Rabbi Yehuda Hanassi Rabbeinu, notre maître. En vérité, Rav, ce n'est pas le même nom. Ce n'est pas le nom de Rav. Son nom propre était Abba. Mais les gens à Babylonie, ils l'appellent Rav, c'est le maître. Parce qu'il était le maître de tout Babel, il était le maître. Qui est le chef de Rosh Yeshivot en Babylonie? Il s'appelle Abba Aricha, Abba le Grand. Brav Maire, on parle là-bas de Rav, Shayarav, Aroch Bedoro, parce qu'il était le grand de sa génération, Rabbi Yochanan Kishmo Zvirle, le Jaregi, Bele Bekino Souda. D'accord. Amar Rabbi Yehuda Amar Samuel, Rabbi Yehuda Amar Samuel dit, Ein Maftirin Achar HaPesach Afikoman. Donc, d'après la première pshat, Afikoman, c'est Apik, faire sortir dans un autre endroit. Et d'après l'autre, c'est dessert. Fait comment c'est dessert? Bon, on va arrêter ici. Bon, Pesach Kasher Vesameach. Et on se rencontre, Bezat Hashem, quand?
Avec sa mère.
On va se rencontrer dimanche matin, Bezat Hashem, avec des bonnes nouvelles.